Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, nous allons ressentir dans nos veines ce que veut dire Kul shi fi Allah. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lamia Kebdani, bonjour.
Oui, bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lamia. Lamia,
merci à toi.
Rabbi khalik, je suis
invité. C'est un honneur pour moi.
L'honneur est partagé. Rabbi khalik, Lamia. Alors, Lamia, toi, tu es dans le coaching, le développement personnel, l'énergétique. Mais par contre, en fait, je me pose cette question, c'est que la personne qui nous a introduit m'a envoyé un message en me disant, c'est quelqu'un qui est dans la finance et qui m'a dit, j'ai une collègue que je souhaite t'introduire. Et ensuite, quand il m'a introduit ton profil, j'ai vu que ce n'était pas de la finance, que c'était autre chose. Alors, est-ce que tu es toujours dans la finance? Est-ce que tu es toujours dans la banque?
Oui, en fait, je me présente, je suis Lamia. Je suis maman de deux enfants et une femme qui navigue entre deux mondes. Le monde de la rigueur avec plus de 17 ans d'expérience en finance, comme vous venez de le dire exactement. Et le monde du coaching et d'accompagnement des personnes qui se cherchent. Parce que effectivement, c'est un sujet, c'est un monde qui m'intrigue et qui m'interpelle énormément. Et où je me retrouve fait énormément aussi.
Ok. Alors Lamia. Avec ma modeste expérience de femme d'aujourd'hui et de version homme, les personnes qui naviguent entre ces deux mondes, en fait, et cette recherche de l'amélioration de soi pour aider les autres émane d'abord de soi. Elle émane d'abord d'une quête personnelle avant d'en faire finalement un outil pour accompagner les autres. Est-ce que, je te pose aussi la question, je l'ai posée plusieurs fois d'ailleurs cette question, est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce qu'à un moment... tu as eu besoin de te chercher, de te trouver plutôt.
En fait, oui, c'est ça. C'était pas un moment, mais ça faisait partie de ma quête de vie. Au départ, en fait, j'étais une fille qui était surprotégée par ses parents. Et cette surprotection a fait de moi, ça m'a fait sentir la vulnérabilité qui était en moi.
D'accord.
Du coup, cette vulnérabilité, je l'acceptais pas. Dans le sens où je me cherchais à retrouver ma force.
Ok.
Et du coup, je me cherchais. Au départ, j'étais dans le contrôle et la perfection. Je cherchais en quelque sorte à me retrouver dans ça. Mais le contrôle et la perfection ne font malheureusement que faire rentrer la personne dans un cercle vicieux. Et en ayant à jouer le rôle de maman, j'ai très très bien compris que le contrôle, c'était pas la bonne façon. Je cherchais l'équilibre, mais c'était une notion mythique parce qu'on ne peut jamais vivre dans un équilibre parfait entre le rôle de maman, de femme, de femme qui travaille et de femme au foyer. Et ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Et après, c'était le passage à une autre vision et à une autre façon de faire, c'est de définir des priorités. Et ça m'a permis aussi de me lancer dans les formations, dans les coachings, parce qu'au départ, je ne trouvais pas assez de temps pour faire tout. Mais en définissant les priorités, ça m'a beaucoup éclairée pour pouvoir avoir le temps à chaque chose qui est prioritaire au moment présent. C'est-à-dire quand je suis avec ma famille, c'est à 100%. Quand je suis dans mon travail, ça va être à
100%. Oui.
Et quand je suis en formation, en déplacement à l'étranger, j'y ai à 100% sans avoir cette culpabilité qui va me ronger indirectement.
Alors, beaucoup de choses. T'as tenu tellement de choses, on va y aller petit à petit. La prise de conscience. La prise de conscience de finalement... cette perfection ne me convient pas, cette perfection est étouffante, cette quête de la perfection, du contrôle absolu sont étouffants pour Lamia. À quel moment il y a eu le réveil en fait? Qu'est-ce qui t'a réveillée?
En fait, j'ai vécu une expérience personnelle avec mes enfants qui m'a vraiment été le déclic pour moi. Parce que quand tu es face à vivre une expérience où tu n'as pas la main ni la force pour faire aucun contrôle ni aviser aucune perfection, C'est là où tu mets tout entre les mains du bon Dieu et tu vis dans ce relâchement, une portail d'espoir qui s'ouvre et tu comprends le message.
Ok. Est-ce que c'est possible qu'on aille dans les détails? Qu'est-ce qui s'est passé?
Du moment que l'histoire ne me touche pas directement, ça touche un de mes enfants, je ne voudrais pas la populariser ni la partager. Je la partage avec les gens proches de moi, mais c'était un vécu par rapport à une expérience médicale.
D'accord.
Qui était un peu dure et qui, alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. Allahumma lakal hamd.
Et en fait, c'est là que tu as compris que tu ne pouvais pas tout gérer, en fait, que tu ne pouvais pas tout contrôler.
Ouais, j'étais obligée à lâcher et dans ce lâcher, j'ai compris des choses.
Afti, Lalamia, on a vécu la même chose. Anaouyek. Oui, moi aussi, j'ai vécu une situation pareille où j'ai été touchée par un souci de santé de l'un de mes enfants auquel je ne m'attendais pas du tout, avec tout le contrôle que j'ai toujours essayé de mettre en place pour pouvoir anticiper, en fait. Et contrôler ma vie et la mener à la baguette. Et un jour, j'étais face à une situation que je ne pouvais pas du tout contrôler, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et il a fallu lâcher prise, en fait. Accepter, en fait, ça a été une claque. Et me dire, en fait, tu ne peux pas tout contrôler, alors lâche. Kul shi fi yadirbi.
Oui, Mabila, exactement. Ouais. Tes mots me parlent parce que... J'ai vécu ça. D'ailleurs, ma fonction principale, c'était de la conformité. Et je me retrouvais facilement dans les procédures, dans la rédaction, dans la visualisation d'un processus de bout en bout, de définir les risques et tout ça. Ça me parlait tellement, j'y étais dedans. Et ma vie était copiée-collée par rapport en direct. C'était un processus dans une entreprise. Et je devais planifier mes voyages, planifier les vacances de mes enfants, planifier même mes accouchements. Tellement je voulais être dans cette perfection et avoir tout nickel, bien fait, parce que c'est comme si je me retrouvais dans cette perfection.
Exactement. Quand tu vivais comme ça, la dynamique familiale, elle était comment? Est-ce que tu étais... une épouse épanouie, une maman épanouie?
Non. Du tout. C'est pour ça que je me cherchais depuis toujours. Parce que je cherchais la force de l'homme, alors étant femme. Et je ne me permettais pas de voir ma force en tant que femme réelle. Je ne lui donnais pas de l'espace.
Ton mari?
Je ne lui donnais même pas de place, oui. Alors, avec mon mari, c'était la même chose, mais il y en avait des discussions comme ça. Heureusement, je me suis retrouvée face à un mari, qui ouvre l'échange. Et moi, je suis quelqu'un qui adore échanger, ce qui fait que tu peux facilement me convaincre si tu ouvres la porte de discussion et d'échange, mais si tu la fermes, je suis une tête dure qui ne va pas pouvoir te suivre.
Alors, ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Ok, tu t'es dit, Anna fidla, kulchi fidla. C'est là où on le dit, en fait, dans notre croyance à nous, on le dit. Mais c'est quand on vit des moments difficiles qu'on en prend la plus grande signification, en fait, qu'on en retient la plus grande signification et que finalement on s'ancre et on trouve du réconfort. Ok, ça c'était la conviction. Maintenant, il y a eu une action. Après la conviction, il y a eu l'action d'aller, en fait, d'aller s'ouvrir vers la recherche de soi. Qu'est-ce que tu as mis en place, Lalamia?
En fait, du moment qu'on parle de lâcher prise, il n'y avait plus cette recherche, il n'y avait plus cette quête. En fait, c'était plus l'attente de la réception. Je me suis éloignée de l'attente et j'ai viré vers la réception. J'ai ouvert mon cœur et mon âme à des choses qui vont me venir. J'étais plus dans la lecture de ce qui me vient. de la corrélation et de créer des liens entre les choses qui me viennent à fur et à mesure. Et c'est là où je commençais à comprendre petit à petit. Et effectivement, c'était dans le lâcher-prise. Mm. C'est pas dans la quête. Et du moment que tu te recherches et tu cherches avec l'option de contrôle et l'analyse et le cerveau, le mental, ben, c'était pas dans tous les cas la bonne démarche pour moi. Mais c'est en lâchant, en lâchant prise, effectivement, et en ayant position de réception.
Ça t'a coûté quoi de lâcher prise, en fait, quand on a été formaté pendant, allez, 3 décennies, 4 décennies à agir d'une certaine manière, selon une certaine rigueur, selon de certaines convictions, en fait. Tu as été formaté à ça, tu l'as adopté en toi et ça a été ton mode de vie. Ça t'a coûté quoi, en fait, de lâcher tout ça? J'imagine que c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton, en fait. On se dit, OK, ça fonctionne pas comme ça, bon, ben, je vais switcher.
C'est les choses qui viennent dans la douceur. Alors, la réception, comme je l'ai dit, et j'ai bien tenu à reformuler la chose, c'est que j'étais dans la réception et à créer les liens entre ce qui me venait. Mmh. C'est important. Ce qui fait que alors, le coaching, c'est pas quelque chose que je cherchais. L'accompagnement des personnes, c'est pas quelque chose que je cherchais. La formation, elle n'était pas faite au départ pour faire ça, pour travailler. Mmh. En fait, c'était quelque chose que je faisais pour moi, à titre personnel. C'était des cadeaux que je me faisais. Je payais des formations et je les considérais comme étant des cadeaux pour les miens, autant que personne.
Ouais,
et à travers ces formations, il y avait des échanges avec des gens que je touchais. Je connais pas la personne, et quand je commençais l'échange, quand je commence le scan avec elle, ben, je ressortais des choses. La première fois, tu te dis que peut-être ça a marché au hasard. La deuxième fois, peut-être que j'ai quelque chose sur elle. Mais quand c'est dans la répétition, tu te dis qu'il y a quelque chose que je peux utiliser et qui me fait plaisir et qui peut toucher l'autre en même temps pour pouvoir déclencher ce déclic chez lui et qu'il puisse prendre conscience de certaines choses dans sa vie pour pouvoir aller dans la bonne direction, on va dire.
Mmh. Ok. Maintenant, au fur et à mesure que... Ça, c'est pour les autres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Tu as dit, je suis allée vers le coaching, vers le développement personnel. C'était des cadeaux que je me faisais. Mais j'imagine que chaque formation t'ouvrait les yeux sur quelque chose. Tes réactions face à, justement, ces prises de conscience personnelles, est-ce que tu te disais, je serais capable, en fait, en sortant de cette formation, de garder le cap de ce que j'ai découvert? Parce que, Alesh, on est des humains, en fait. On a des automatismes, des mécanismes. Et toi, tu as eu tes mécanismes pendant des années, des décennies, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille d'eux, en tant que salariée, etc. Tu as eu un fonctionnement. Or là, pendant ces formations, on te pointait du doigt, finalement, ce qui devait changer, comment tu devais te repositionner. Comment tu as fait pour, une fois que tu ouvres les yeux sur ça lors d'une formation, de garder avec toi l'élan que tu emportes avec toi au-delà de la formation pour pouvoir l'appliquer et pour pouvoir transformer la mienne?
En fait, c'était à travers des personnes qui m'est venu à travers le chemin de vie. C'est comme s'il y avait des choses qui venaient. Mmh. Je ne cherchais pas. Et c'est à travers des échanges... de parler avec une copine du scan ou de ce que je faisais et de créer le lien avec une autre personne que je connaissais même pas et dont l'échange était riche pour elle et pour moi. Et c'est petit à petit que ça me nourrissait. Alors j'ai vu en moi un changement par rapport à ce contrôle qui prend plus le dessus par rapport auparavant. Je voyais le changement par rapport à la relation, à ma relation avec mon mari, mes enfants et avec moi-même. Mmh. C'est-à-dire j'étais dans une quête, c'était toujours un volcan qui était très très actif au fond de moi, alors qu'aujourd'hui je garde cette dynamique mais pas avec cette feu, en fait avec ce feu, pardon, l'image que j'aimerais bien partager, elle m'est venue, j'aimerais bien la partager avec toi Yasmine.
Vas-y.
C'est que chaque personne et chacun de nous peut être actif dans sa vie, soit avec un carburant qui va l'activer pour aller vers l'avant, soi, il va être vraiment dynamique à travers un feu. Mais malheureusement, le feu, il brûle. Et c'est ça la différence entre deux personnes qui sont vraiment dans un process très, très actif, mais l'un qui va avancer tout en préservant son corps, son cœur et son âme, et par rapport à un autre qui malheureusement brûle une bonne partie de son corps, de son cœur et de son âme pour pouvoir être dans cette pour qu'il puisse être dans cette dynamique.
Alors, la lamia de Shahal Hadi, et je vais te le dire en arabe, « Wesh kasbqafik lioma ?»
Oui. Parce que quand je me mets debout, quand elle se tire de partout, mais malheureusement, elle ne trouve pas une lumière à l'intérieur. Elle cherchait une lumière qui devait en quelque sorte sortir de son cœur. Et malheureusement, il n'y avait que du noir. Je faisais tout avec perfection et ça me prenait énormément de temps. Aujourd'hui, je fais les choses avec amour et c'est ça la grande différence. Avec amour, ça te bouffe pas, ça t'étrangle pas et ça donne un résultat qui parle aux autres. Parce que quand tu es dans le partage à travers l'amour, il y a du sens qui touche les personnes qui t'entourent.
Alors, toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans cette quête de perfection, d'équilibre, parce que la notion d'équilibre aussi, chez beaucoup, c'est tout doit être parfait, en fait. L'équilibre vie pro, vie professionnelle, vie personnelle, vie professionnelle, c'est qu'en fait, on mène les deux de front de la même manière, avec le même engagement, le même niveau d'engagement, le même niveau de rendement, etc. Tu as vécu dans ce mindset également. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui sont dans ce tourbillon, en fait, de vouloir tout mener de front de la même manière?
Ben, la première des choses, c'est de savoir et de ressortir l'élément, la source qui a fait d'elle et qui lui a laissé rentrer en quelque sorte, ou plutôt entrer dans ce tourbillon. C'est important parce qu'une fois on trouve cet élément déclencheur et on a cette prise de conscience, ça c'est un premier pas très très important. Alors par la suite, avec cette prise de conscience, on commence à intégrer des petites habitudes. C'est dans la douceur que le change vient. On ne peut pas switcher de ça à ça en un clic. C'est-à-dire le fait de vouloir changer de ça à ça en un clic, tu es dans le contrôle. Ce qui fait que c'est dans le lâcher. Et tu sais, c'est magique. Il y a une forte, il y a un effet d'élan que on peut ne pas voir à l'instant P, mais avec du temps et avec comment dirais-je, avec du temps, on arrive effectivement à accumuler, à voir ce qu'on a pu réaliser.
Est-ce que c'est possible?
D'où on était et...
Où est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que c'est possible de s'en sortir seul? Ou là, tu vas me dire, ça dépend du degré, en fait, du degré du besoin de perfection et de perfectionnisme.
Alors, seul, je dirais non. On aura toujours besoin de formation, de lire des livres, d'avoir un accompagnement. Alors, l'accompagnement, pour moi, c'était c'était un mot que j'utilisais, que je ne comprenais même pas auparavant. Et je me disais que le fait de payer quelqu'un pour t'accompagner, qu'est-ce qu'il va te rajouter? Mais en ayant un vécu et en ayant en quelque sorte à vivre une expérience d'impact qui va toucher beaucoup de choses et qui va permettre à la personne de changer, de switcher de façon de voir sa vie, j'ai compris que c'est pas juste quelque chose qu'on utilise, mais ça a beaucoup d'impact et qui touche des choses en nous, qui nous permet de prendre conscience de nos blocages, d'accepter notre vécu, d'accepter notre éducation, accepter nos parents. Et ça vire vers l'acceptation de la vie et cela va nous permettre en quelque sorte d'économiser de l'énergie pour pouvoir s'investir dans le futur et vivre des choses et voir les choses qui seront plus impactants et plus parlants pour nous pour pouvoir aller plus vers l'avant.
Alors Lalamia, toi tu portes le voile, Liek?
Oui.
Oui. Alors, tu le portes depuis combien de temps, en fait?
On va dire plus de 30 ans.
Plus de 30 ans, ok. Donc en fait, le processus, tu l'as vécu en étant voilée.
Oui.
Oui. Alès, pourquoi je te pose la question? Parce que la perception que nous avons, c'est que une femme voilée, c'est une femme en fait qui est déjà extrêmement apaisée émotionnellement. Or, toi, tu nous démontres aujourd'hui que malgré en fait l'habit, le port de ce voile, il y avait justement ce tiraillement intérieur par rapport à l'environnement, par rapport aux parents, par rapport à justement, je ne peux pas tout contrôler.
Oui. En fait, l'histoire du voile, ben, j'aimerais bien la partager parce que, en fait, personne ne m'a obligée de le porter. C'était une décision que j'avais prise de moi-même à un très jeune âge. Je me suis adressée à mes parents pour leur partager ma décision. Alors, mon père, il était quelqu'un de réservé. Et je me rappelle très, très bien de cette phrase. Il m'a dit que je n'étais pas imposée de le mettre, mais ma fille, si tu le portes, ça ne va pas être pour le porter, l'enlever. Ne te laisse pas rentrer dans ce dilemme. Ah. Et tellement j'étais sûre de moi, par rapport à ma décision, ça venait de mon cœur, en fait. Ce n'était pas un truc qui me venait du mental ou du cerveau. Et alhamdoulilah, depuis que je l'ai porté, c'était une sorte de protection pour moi. Je parlais tout à l'heure de vulnérabilité. C'était une façon de me rapprocher du bon Dieu. L'échange d'Yalim à Sederbe, c'est comme si ça s'est devenu plus fluide en le portant. Et c'est toujours une relation entre moi et le bon Dieu. Il n'y avait personne qui m'a obligée, ni rien. Il n'y avait aucune obligation à le porter. Je suis quelqu'un qui porte le voile et qui a vécu tout ce qu'il voulait dans sa vie. Je nageais avec un burkini, même à l'époque où il n'y avait pas. Je cherchais à tisser, à trouver des personnes qui vont me faire le fameux burkini avant qu'il soit popularisé. Je sautais des falaises, je nageais, je courais. Alors, ça ne m'a jamais limité ni bloqué. Ce n'était pas un élément bloquant dans ma vie. Ça, c'est de un. De deux, le fait de le porter, comme je l'ai dit, c'est plus pour me protéger et pour créer en quelque sorte et pour répondre à un message qui me parlait. Effectivement, le porter... Mais le fait de le porter ne touchait en rien cette quête intérieure que j'avais en moi.
Ouais.
Au contraire, il y avait toujours cet échange des messages du bon Dieu, mais malheureusement, on n'est pas tout le temps dans la bonne lecture. Parce que, Yasmine, on va toujours recevoir un message, mais chacun de nous va mettre le focus là où il va, lui choisir. C'est que j'ai un accident. Je peux me plaigner et me dire ça va être une perte de temps, d'argent, etc., etc. Et peut-être que je vais mettre un recul, me dire que ça va épargner un mouchkil plus grand, ça va éviter quelque chose de plus grave. Et tu passes la chose dans la douceur et effectivement, tu continues ta journée normalement.
Absolument. En fait, je voulais entendre ça parce que justement, il y a tellement de stéréotypes. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai dit de façon très simpliste. La relation entre porter un voile et cette recherche intérieure, c'est comme si en fait, une personne qui était déjà couverte n'avait plus besoin de cette recherche intérieure. Or, l'être humain dit « Mais qui ça ?»
Exactement.
Voilà. Lamia Kebdani, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, c'était un plaisir. Et tout l'honneur est pour moi, Yasmine.
Rabbi khlik lala lamia. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1 et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.